Chapitre 40. La grande mosaïque. Continuons nos réfutations. Il s'ignore, Antonio Nicolini a prétendu que c'était la bataille d'Arbel. Prouvons que ce n'est pas plus la bataille d'Arbel que ce n'est la bataille du Granic. Arbel est le Marengo d'Alexandre. Les chars garnis de faux des Persans et la terrible charge qu'avait faite leur cavalerie avaient mis les Macédoniens en fuite. Lorsque le vainqueur d'Issus et du Granic se jeta à la rencontre de Darius, qui combattait à la tête des siens, et d'un coup destiné au roi des Perses, tua son cocher. Ce coup fut un coup de flèche, disent Plutarque et Diodore de Sicile. Un coup de lance, disent les autres historiens. Mais tant il y a que, de quelque arme qu'il fut frappé, le cocher tomba, et que les Perses, croyant que c'était leur général qui était frappé à mort, perdirent courage et prirent aussitôt la fuite. Ce fut alors que le char de Darius, ne pouvant se retourner à cause de la quantité de cadavres amoncelés autour de lui, le roi des Perses sauta sur une jument et, comme à la bataille d'Issus, s'enfuit et disparut bientôt au milieu de la poussière qui s'élevait sous les roues des chars et sous les pas des chameaux et des éléphants, ne s'arrêtant, dit Plutarque, que lorsqu'il eut mis le désert tout entier entre lui et son vainqueur. La victoire d'Arbel fut donc décidée par la chute du cocher de Darius, qui tomba du char et dont la chute épouvanta les Perses. Or le cocher de la mosaïque est debout, et bien debout. Et à la façon dont il frappe les chevaux, il y a probabilité qu'il se tirera de la mêlée sain et sauf. La victoire d'Arbel fut surtout remarquable par la lutte acharnée des deux cavaleries ennemies. Arrien affirme que cette lutte fut si acharnée que les cavaliers se prenaient corps à corps et tombaient embrassés sous les pieds de leurs chevaux. Or, il n'y a pas parmi les 28 personnages de la mosaïque deux cavaliers qui combattent de cette façon. Plutarque, dans la vie de Camille, raconte que la bataille d'Arbel eut lieu pendant l'automne. Or, la bataille de la mosaïque a lieu pendant l'hiver, et au plus avancé de l'hiver, ainsi que l'arbre dépouillé de ses feuilles en fait foi. Tous les historiens racontent que Darius s'enfuit sur une jument et disparut bientôt, grâce à la poussière qui se levait sous les roues des chars et sous les pas des éléphants et des chameaux. Or, il n'y a dans la mosaïque qu'un seul char, c'est le char du roi. De chameaux et d'éléphants, il n'y en a pas plus que sur la main. Ce n'est donc pas la bataille d'Arbel. Il s'ignore, Carlo Bonucci a prétendu que c'était la bataille de Platée. Prouvons que ce n'est pas plus la bataille de Platée que ce n'est la bataille d'Arbel. Selon l'opinion du savant architecte des fouilles, et c'est lui, rappelons-le, qui a découvert la maison du faune, le chef victorieux de la mosaïque serait Pausanias, roi de Sparte. Le guerrier bleu serait Mardonius, gendre du roi des Perses. Et les personnages du char seraient Artabase, général en second de l'armée barbare. Certes, nous ne demanderions pas mieux que de nous rallier à l'opinion de M. Charles Bonucci. M. Charles Bonucci est certainement un des hommes les plus savants que nous ayons rencontrés, mais c'est encore un des hommes les plus aimables que nous ayons vus. Mais, en conscience, nous ne pouvons pas, tout indigne que nous nous reconnaissons de discuter avec un académicien, laisser passer la chose ainsi. 1. Mardonius ne fut pas tué par Pausanias, mais par Hémneste. Écoutez Hérodote, il s'explique positivement sur ce point. Mardonius, dit-il, fut tué par Hémneste, illustre citoyen de Sparte, qui depuis mourut lui-même dans une bataille contre les Messéniens. 2. Non seulement ce ne fut pas Pausanias qui tua Mardonius d'un coup de lance, mais Mardonius, dit toujours le même Hérodote, ne fut pas tué d'un coup de lance, mais d'un coup de pierre. 3. Le guerrier du char ne peut être Artabase, le second chef de l'armée, puisque, avant la bataille de Platée, se trouvant en dissidence avec Mardonius relativement au plan de campagne, il ne voulut pas même assister à la bataille. Et ayant appris que la victoire avait favorisé les Grecs, il se retira en Phocide avec 40 000 hommes qui, ainsi que lui, n'avaient pas assisté au combat. 4. Enfin, ce ne peut pas être la bataille de Platée, attendu qu'avant la bataille de Platée, les Perses, ayant été vaincus dans une rencontre et ayant perdu Maniste, un de leurs chefs, Mardonius avait ordonné qu'en signe de deuil, tous les soldats de son armée taillassent leurs cheveux et leurs barbes, et qu'on coupât les crins aux chevaux et aux bêtes de somme. Voyez plutôt Hérodote. La cavalerie revenue au camp, toute l'armée exprima la douleur qu'elle ressentait de la mort de Maniste, et Mardonius, plus que tous les autres. Aussi les Perses se taillèrent-ils la barbe et les cheveux, et coupèrent-ils les crins de leurs bêtes de somme, et jetèrent-ils des cris qui retentirent dans toute la Boétie. Et cela venait de ce qu'ils demeuraient privés d'un personnage qui, après Mardonius, était, de l'avis du roi lui-même, le premier parmi tous les Perses. Or les cavaliers perses de la mosaïque sont à toute barbe et les chevaux à tout crin. Ce n'est donc pas la bataille de Platée. Monsieur Marchand, car les Français s'en sont mêlés comme les autres. Monsieur Marchand, dis-je, a prétendu que c'était la bataille de Marathon. Je voudrais fort ne pas contredire un compatriote, et surtout un compatriote aussi savant que Monsieur Marchand. Mais on m'accuserait de partialité si je ne démantibulais pas Marathon comme j'ai démantibulé Platée, Arbel, Le Granic et Issus. Prouvons donc que ce n'est pas plus la bataille de Marathon que ce n'est la bataille de Platée. La bataille de Marathon, gagnée par Miltiade, fut, du côté des Perses, perdue de compte à demi par Datis et Artaferne. M. Marchand voit donc dans Artaferne le général monté sur le char, dans Datis le guerrier blessé, et dans Miltiade, le chef vainqueur. Nous passerons Artaferne à M. Marchand, mais en conscience. Nous ne pouvons lui passer Datis ni Miltiade. Datis, parce qu'il ne fut ni tué ni blessé en cette occasion, puisqu'au dire d'Hérodote, il rendit au vainqueur, après la bataille, la statue dorée d'Apollon, qu'il leur avait enlevée quelques jours auparavant, et se retira sain et sauf en Asie avec le reste de l'armée. Miltiade, parce qu'il avait 50 ans à cette époque, et que le chef vainqueur de la mosaïque n'en a que 30. Quant à l'arbre dépouillé de feuilles, M. Marchand y voit un hiéroglyphe. Selon lui, cet arbre est là pour symboliser la pensée de l'historien, qui dit qu'à Marathon les Athéniens ne furent des hommes ni de chair ni d'eau, mais des hommes de bois. Notre avis est donc, malgré l'arbre symbolique, que ce n'est pas la bataille de Marathon. Il signor Luigi Vescovali a prétendu que c'était la défaite des Gaulois à Delphes. Prouvons que ce n'est pas plus la défaite des Gaulois à Delphes que ce n'est la bataille de Marathon. Selon le signor Luigi Vescovali, les assaillants seraient les Grecs, le guerrier blessé serait le Brenne, ou général, et les soldats vaincus seraient les Gaulois. Quant au personnage du char, comme le signor Luigi Vescovali n'en sait que faire, il n'en fait rien. D'abord, ce ne sont ni les armes, ni le costume, ni la manière de combattre des Gaulois. Où sont les brais? Où sont les longs cheveux blonds? Où sont ces lances larges et recourbées? Où sont les arcs avec lesquels ils lançaient leurs traits comme la foudre? Où sont ces immenses boucliers qui leur servaient de bateaux pour traverser les fleuves? Il n'y a rien de tout cela dans les vaincus de la mosaïque. Puis écoutez le récit d'Amédée Thierry, récit emprunté à Valère Maxime, à Tite-Live, à Justin et à Posonias, et jugé. On était alors en automne, et durant le combat il s'était formé un de ces orages soudains, si communs dans les hautes chaînes de l'Hellade. Il éclata tout à coup, versant dans la montagne des torrents de pluie et de grêle. Les prêtres et les devins, attachés au temple d'Apollon, se saisirent d'un incident propre à frapper l'esprit superstitieux des Grecs. L'œil hagard, et les cheveux hérissés, l'esprit comme aliéné, ils se répandirent dans la ville et dans les rangs de l'armée, criant que le dieu était arrivé. « Il est ici, disait-il. Nous l'avons vu s'élancer à travers la voûte du temple. Elle s'est fendue sous ses pieds. Deux vierges armées, Minerve et Diane, l'accompagnent. Nous avons entendu le sifflement de leurs arcs et le cliquetis de leurs lances. Accourez, ô Grecs, sur les pas de vos dieux, si vous voulez partager leur victoire. » Ce spectacle, ces discours prononcés au bruit de la foudre, à la lueur des éclairs, remplirent les Hellènes d'un enthousiasme surnaturel. Ils se reforment en bataille et se précipitent l'épée haute sur l'ennemi. Les mêmes circonstances agissaient non moins énergiquement, mais en sens contraire. Sur les bandes victorieuses, les Gaulois crurent reconnaître le pouvoir d'une divinité, mais d'une divinité irrités. La foudre, à plusieurs reprises, avait frappé leur bataillon, et cette détonation, répétée par les échos, produisait autour d'eux un tel retentissement qu'ils n'entendaient plus la voix de leur chef. Ceux qui pénètrent dans l'intérieur du temple avaient senti le pavé trembler sous leurs pas, ils avaient été saisis par une vapeur épaisse et méphitique qui les consumait et les faisait tomber dans un délire violent. Les historiens rapportent qu'au milieu de ce désordre, on vit apparaître trois guerriers d'un aspect sinistre, d'une stature plus qu'humaine, couverts de vieilles armures, et qui frappèrent les Gaulois de leurs lances. Les Delphiens reconnurent, dit-on, les ombres de trois héros, Hipporhocus et Laodocus, dont les tombeaux étaient voisins du temple, et Pyrrhus, fils d'Achille. Quant aux Gaulois, une terreur panique les entraîna en désordre jusqu'à leur camp, où ils ne parvinrent qu'à grand-peine, accablés par les traits des Grecs et par la chute d'énormes rocs qui roulaient sur eux du haut du Parnasse. Voilà le récit d'Amédée Thierry, c'est-à-dire d'un de nos écrivains les plus savants et les plus consciencieux. Or, je vous prie, où est Delphes? Où est le temple? Où est la foudre? Où est le dieu irrité? Où sont les trois guerriers spectres qui combattent pour les Delphiens? Où sont ces rocs qui poursuivent les fugitifs en bondissant au flanc du Parnasse? Rien de tout cela n'est dans la mosaïque. Ce n'est donc point la défaite des Gaulois à Delphes. Il s'ignore Filippo de Romanis a prétendu que c'était la rencontre de Drusus avec les Gaulois, près de la ville de Lyon. Prouvons que ce n'est pas plus la rencontre de Drusus avec les Gaulois près de la ville de Lyon que ce n'est la défaite des Gaulois à Delphes. Selon le signor de Romanis, le chef vainqueur de la mosaïque serait Néron Claudius Drusus, le cavalier blessé un chef gaulois, et le personnage du char un barde. Quant au nom de ce barde et de ce chef, les noms gaulois sont si barbares et si difficiles à prononcer que le signor de Romanis ne les indique pas même par une pauvre petite initiale. Il s'ignore de Romanis et de l'avis du proverbe qui dit que quand on prend du galon, on en saurait trop prendre. Pendant qu'il était en train d'inventer un système, il a inventé une bataille. En effet, sa bataille n'a pas plus de nom que son chef gaulois et son barde. Malheureusement, malgré ce vague si favorable aux théories systématiques, il y a deux choses positives. La première, c'est que les médailles qui restent de Drusus ne ressemblent en rien au chef vainqueur de la mosaïque. La seconde, c'est que le prétendu barde, monté sur le char, tient un arc et non une lyre. Je sais bien qu'un arc est un instrument à cordes, mais je doute que jamais les bardes se soient servis d'un arc pour s'accompagner. J'ai donc grand peur que la mosaïque ne représente pas la rencontre de Drusus avec les Gaulois près de la ville de Lyon. Il s'ignore Pasquale Ponticelli a prétendu que c'était la défaite des Égyptiens par César. Prouvons que ce n'est pas plus la défaite des Égyptiens par César que ce n'est la défaite des Gaulois près de la ville de Lyon. Selon il s'ignore Pasquale Ponticelli, le chef vainqueur est César, le guerrier blessé est Achille, le roi fugitif est Ptolémée. Il y a tout bonnement une impossibilité par personne citée à ce que cela soit. Le chef vainqueur de la mosaïque a 30 ans à peu près, et à cette époque César en avait 51 ou 52. Le guerrier blessé ne peut être le général égyptien Achille, puisque le général égyptien Achille fut, avant la bataille, tué en trahison par l'eunuque Ganymède. Enfin, le roi fugitif ne peut être Ptolémée, puisque Ptolémée avait à cette époque 17 ans à peine, et que le roi vaincu paraît en avoir 45 à 50. Il est vrai que cela pourrait s'arranger si César cédait à Ptolémée les 21 ou 22 ans qu'il a de trop. Mais resterait encore le malheureux général Achille, que nous ne saurions en conscience ressusciter pour faire plaisir au signor Pasquale Ponticelli. Nous ne parlons pas des costumes qui ne s'appliquent ni aux Romains du temps de César, ni aux Égyptiens du temps de Ptolémée. Mais, dira peut-être il signor Pasquale Ponticelli, ce n'est point de la bataille d'Alexandrie que j'ai voulu parler, mais de la seconde bataille qui rendit César maître de la monarchie égyptienne. À ceci nous répondrons qu'à cette seconde bataille, le roi Ptolémée, qui, au reste, n'avait que quelques mois de plus qu'à la première, était revêtu d'une cuirasse d'or. Puisque, lorsqu'on le retira du Nil, mort et défiguré, ce fut à cette cuirasse qu'on le reconnut. Or, sur toute la personne du roi fugitif, il n'y a pas la moindre apparence de cette cuirasse d'or, qui cependant était assez importante pour que le peintre ne la laissât point à l'arsenal. Ce n'est donc point la défaite des Égyptiens par César. Le marquis Arditi prétend que c'est la mort de Sarpedon. Prouvons que ce n'est pas plus la mort de Sarpedon que ce n'est la défaite des Égyptiens par César. Sarpedon eut deux rencontres avec les Grecs, c'est vrai. Près du être sacré, c'est encore vrai. Mais quoique fils de Jupiter, Sarpedon n'était pas heureux en guerre. Dans la première, Sarpedon fut blessé, dans la seconde, il fut tué. Traduisons littéralement Homère, et voyons si le sujet de la mosaïque s'applique le moins du monde à l'une ou l'autre de ces deux rencontres de Sarpedon. La première de ces deux rencontres eut lieu avec Tlépomène, fils d'Hercule et petit-fils de Jupiter. Sarpedon était par conséquent l'oncle de Tlépolème. Voici comment l'oncle parle au neveu. Tlépolème, si Hercule détruisit Troie, la ville sacrée, c'était pour punir la perfidie du fier Laomédon, qui paya, par des paroles insolentes, celui qui avait si bien agi à son égard, et lui refusa les chevaux pour lesquels il était venu d'aussi loin. Eh bien, je te le dis, tu recevras de moi la mort et le noir enfer, et, frappé de mon javelot, tu me donneras à moi la gloire, et ton âme à Pluton. Ainsi parla Sarpedon. Maintenant, voici comment le neveu répond à l'oncle. Tlépolème élève son javelot aigu, et les deux longs javelots des guerriers partent de leurs mains. Sarpedon lança le sien, et la pointe alla frapper Tlépolème à la gorge. La sombre nuit de la mort couvrit ses yeux. Tlépolème frappa Sarpedon à la cuisse de son long javelot, et le fer impétueux écarta la chair et pénétra jusqu'à l'eau. Les amis de Sarpedon l'entraînent loin du combat. Il porte encore le javelot long et pesant. Aucun de ceux qui se pressent autour de lui ne s'en aperçoit et ne pense à retirer le fer dangereux pour qu'il remonte sur son char, tant il s'était empressé de le tirer de ce danger. Le guerrier vainqueur de la mosaïque est armé d'une lance et non d'un javelot. Le guerrier vaincu n'a pas lancé son javelot, mais de douleur a laissé tomber sa lance près de lui. Tlépolème n'est pas le moins du monde frappé à la gorge, et Sarpedon est frappé non pas à la cuisse, mais dans le flanc. Et la lance, qui n'a pas trouvé d'eau pour l'arrêter, passe d'un pied et demi de l'autre côté du corps. De plus, comme cette lance peut avoir 12 pieds de long, il serait difficile que les amis de Sarpedon ne s'aperçussent point que, tout fils de Jupiter qu'il est, le héros doit en être incommodé. De plus, ils sont pressés de faire remonter Sarpedon sur son cheval, et le guerrier blessé de la mosaïque est à cheval. L'artiste n'a donc évidemment pas eu l'idée de représenter son premier combat. Passons au second. Cette fois, la lutte a lieu entre Sarpedon et Patrocle. Voici comment parle Homère. Nous demandons pardon à nos lecteurs de la simplicité de notre traduction littérale. Elle ne ressemble ni à celle du prince Lebrun, ni à celle de monsieur Bitobé, mais ce n'est pas notre faute. Lorsque les deux guerriers se furent rapprochés en face l'un de l'autre, Patrocle frappa le courageux Trasimène, qui était le meilleur écuyer de Sarpedon, et, lui lançant un trait dans le ventre, il le renversa à terre. Sarpedon, frappant le second, lance à son tour son javelot aigu et atteint le cheval Pédase, à l'épaule droite. Le cheval pousse des cris, tombe au milieu des rênes et meurt. Les deux autres s'arrêtent, le timon craque et les chevaux s'embarrassent, car Pédase gît au milieu des rênes. Automédon tire sa longue épée et coupe le trait à la volée. Ils commencent alors leur périlleux combat. Sarpedon lance de nouveau à son ennemi un trait aigu. Le javelot rase l'épaule gauche de Patrocle, mais ne le touche pas. Enfin Patrocle lance son trait, qui ne sort pas inutilement de sa main, mais va frapper à l'endroit où le diaphragme embrasse le cœur nerveux et plein de vie. Sarpedon tombe alors comme un chêne, ou comme un pin que sur la montagne les hommes abattent avec des haches tranchantes. Or, le combat de la mosaïque ressemble encore moins à la seconde rencontre de Sarpedon qu'à la première. Où est Trasimène, le meilleur écuyer de Sarpedon? Où est le cheval Pédase, blessé à l'épaule droite? Où est Automédon, coupant le trait? Où est enfin Sarpédon frappé au cœur? À moins que déjà, du temps d'Homère, les médecins n'aient mis le cœur à droite. Ce n'est donc pas la mort de Sarpédon. Enfin, il s'ignore, Giuseppe Sanchez a prétendu que c'était une rencontre entre Achille et Hector. Prouvons que ce n'est pas plus une rencontre entre Achille et Hector que ce n'est la mort de Sarpédon. Voici, selon le signor Giuseppe Sanchez, le paragraphe d'Homère auquel le peintre a emprunté son sujet. Ulysse vient supplier Achille d'oublier l'injure que lui a faite Agamemnon, mais Achille le renvoie plus loin qu'il ne veut aller, et, rappelant les services rendus aux Grecs, il dit « Tant que je combattis avec les Grecs, Hector n'osa point lutter avec moi ni s'aventurer hors de ses murs. Toujours il restait à la porte de C, et sous un être. Cependant un jour il osa me braver, mais il put à peine échapper à mes coups. Nous vous voyons venir, monsieur Sanchez. Vous n'avez pas voulu choisir un des combats racontés par Homère. Non. Homère poète, peintre, historien, Homère est trop précis, trop descripteur. Il lui était trop facile, Homère à la main, de vous réfuter. Vous avez préféré prendre quelque chose de vague. Vous avez prétendu que l'artiste avait pris à la volée les quelques mots de Rhodomontade jetés au vent par la colère d'Achille, et qu'il en avait fait un tableau. Ce n'est pas probable, mais n'importe, admettons votre donnée. C'est donc la rencontre d'Achille et d'Hector près de la porte de C. D'abord, monsieur Sanchez, Achille avait des chevaux de rechange. Il avait à cette époque Xanthe et Balius, fils de Podarge et du Éphyr, et par conséquent immortel. Il avait de plus Pédase, qu'il avait pris au siège de Thèbes, et qui, au dire d'Homère, tout mortel qu'il était digne d'être attelé près de ses deux collègues divins. Mais quoique Achille dût monter à cheval comme un membre du Jockey Club ou comme un écuyer de Franconi, Achille ne montait jamais à cheval quand il s'agissait de combattre. Fi donc, les héros comme Achille avaient un char, un automédon pour conduire ce char, et au fond de ce char, tout un arsenal de piques et de javelots. Combattre à cheval. Pour qui prenez-vous le divin fils de Tétis et de Pelée? C'est bon pour des pleutres et des faquins, mais du temps d'Homère, les gens, comme il faut, combattaient en char. Écoutez, Nestor. Contenez vos chevaux, dit-il. Prenez garde qu'ils ne portent le désordre dans nos lignes, qu'aucun de vous ne s'abandonne à sa fougueuse ardeur, qu'aucun ne sorte des rangs pour attaquer l'ennemi, qu'aucun ne recule. Vous seriez bientôt rompu et défait. Si quelqu'un est forcé d'abandonner son char pour monter sur un autre, qu'il ne se serve plus que de ses javelots. Puis, s'il vous plaît, à cette époque, Achille avait encore ses armes, puisque Patrocle n'était pas mort. Où est donc l'immense bouclier sous lequel gémissait le bras de Patrocle? Où est le casque terrible dont le cimier seul, en se balançant, faisait fuir les Troyens? Où Achille dit-il que lorsque Hector a fui devant lui, lui Achille était nu-tête? Certes, Achille n'est point assez modeste pour avoir oublié une pareille circonstance. Donc le chef vainqueur de la mosaïque ne peut être Achille, puisque le vainqueur de la mosaïque n'est pas sur le char d'Achille, et ne porte pas les armes d'Achille. Passons à Hector. Maintenant Hector est sur son char, c'est vrai. Malheureusement, le chef vaincu de la mosaïque non seulement n'a pas les armes d'Hector, mais encore n'a pas l'âge d'Hector. Où M. Giuseppe Sanchez a-t-il vu que l'élégant fils de Priam, qui dispute le prix de la beauté à Paris, le prix du courage à Achille, soit un homme de 45 à 48 ans. Franchement, quoique Homère ne dise nulle part l'âge d'Achille, tout ce que je peux faire pour M. Sanchez, c'est d'accorder 30 ans à Hector. Puis j'en demande pardon à M. Sanchez, j'ai lu et relu l'Iliade, et je n'ai vu nulle part qu'Hector se servit d'un arc. C'est Paris, l'archer de la famille, et Homère est trop adroit pour établir une pareille similitude entre les deux frères. À Hector, il faut les armes offensives du brave, il faut les javelots avec lesquels on se bat à 20 pas de distance, il lui faut cette lance au cercle d'or avec laquelle on frappe son ennemi en le joignant, il lui faut l'épée avec laquelle on lutte corps à corps. Puis comme arme défensive, où est ce casque, présent d'Apollon, dont le panache sème la terreur? Où est ce grand bouclier qu'il rejette sur ses épaules quand il tourne le dos à l'ennemi et qui le couvre tout entier? Où est enfin la cuirasse où s'enfonce si profondément le javelot d'Ajax qui déchire jusqu'à sa tunique? Or, si le guerrier vaincu de la mosaïque n'a pas l'âge d'Hector et n'a pas les armes d'Hector, ce ne peut être Hector. Il en résulte que si l'un ne peut être Hector et que l'autre ne puisse pas être Achille, la mosaïque doit nécessairement représenter autre chose que la rencontre d'Achille et d'Hector. J'en demande pardon à mes lecteurs, mais j'ai voulu prendre les 10 systèmes les uns après les autres pour leur prouver qu'il ne faut pas croire trop aveuglément au système. Maintenant, je pourrais, comme un autre, faire un 11e système, mais je ne donnerai pas ce plaisir à messieurs les savants italiens. Je leur raconterai tout simplement l'histoire d'un pauvre fou que j'ai vu à Charenton et qui m'a paru non seulement plus sage, mais encore plus logique qu'eux. Sa folie était de se croire un grand peintre, et à son avis, il venait d'exécuter son chef-d'œuvre. Ce chef-d'œuvre, recouvert d'une toile verte, était le passage de la mer Rouge par les Hébreux. Il vous conduisait devant le chef-d'œuvre, levait la toile verte, et l'on apercevait une toile blanche. « Voyez, disait-il, voilà mon tableau. » « Et il représente, demandait le visiteur, il représente le passage de la mer Rouge par les Hébreux. Pardon, mais où est la mer? Elle s'est retirée. Où sont les Hébreux? Ils sont passés. Et les Égyptiens? Ils vont venir. Dites-moi, les savants italiens que nous venons de citer, sont-ils aussi sages et surtout aussi logiques que mon fou de Charenton ?